tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. C'est quoi réussir sa vie ? Est-ce que le bonheur est proportionnel à l'argent que l'on gagne ou encore est-ce que scroller sur Instagram à table est nocif pour notre bien-être ? C'est des questions que j'ai abordées avec mon invitée qui est une spécialiste du bonheur. Elle s'appelle Maline Ridal. Elle a sorti un livre en 2014 qui s'appelle « Heureux comme un Danois » et qui a été un vrai succès, traduit en 12 langues. Depuis, elle a écrit un autre livre qui s'appelle « Le bonheur sans illusion » que je vous recommande vivement. Maline, c'est une femme qui a une énergie positive juste hallucinante, mais surtout sincère. Donc moi, j'ai été très marquée par nos échanges et on a abordé plein de sujets comme le sexe, le pouvoir, l'argent, la réussite ou encore l'éducation des enfants. Je vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne session de thérapie du bonheur. Bonne écoute. Maline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que je peux commencer par te demander de te présenter ?
Oui, avec plaisir et merci d'ailleurs de l'invitation. Comment me présenter ? Ça fait plus de 24 ans que j'habite à Paris. Je suis venue toute petite à 18 ans, donc toute jeune en tout cas. Et j'ai eu un premier parcours plutôt, entre guillemets, classique dans des entreprises. Mais j'ai en réalité beaucoup suivi mes passions et ma carrière a été construite sur des rencontres, des belles rencontres. Donc j'ai souvent choisi de travailler pour des personnes, beaucoup plus que pour des entreprises. Donc j'ai eu cette première partie de ma vie où notamment j'ai travaillé dans l'hôtellerie, qui était ma grande passion. Et en 2012, le premier rapport sur le bonheur dans le monde de la part des Nations Unies est sorti. Et le Danemark, donc mon pays d'origine, est sorti comme le pays le plus heureux au monde. Et donc je me suis posé la question, mais pourquoi ? Autant, je voyais quelques explications comme étant que c'est un des pays les plus égalitaires au monde, mais je n'étais pas parfaitement capable d'expliquer exactement pourquoi. Donc j'ai lu le rapport et j'ai trouvé fascinant les explications assez simples pour expliquer pourquoi certains pays vivent plus heureux que d'autres. Et j'ai commencé à étudier en détail tous les économistes, tous les sociologues, toutes les académiques qui écrivaient sur le sujet du bien-être collectif. Et j'ai constaté assez rapidement que c'était un sujet passionnant, mais aussi que c'était un sujet qui était assez inaccessible. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'était souvent des académiques qui écrivaient pour des académiques. Ouais. Et j'ai décidé d'écrire mon premier livre, Heureux comme un Danois, pour rendre accessibles ces explications avec une voix qui accompagne les explications par moments un peu académique aussi, dans un livre qui est tout simple. Donc en 2014, je sors mon premier livre chez Grasset. Mm-hmm. Et un an après, j'ai pris la décision de quitter mes fonctions dans le groupe Hayat en tant que directrice de la communication de 42 hôtels. Et j'ai plongé dans l'océan pour changer ma vie, donc pour accompagner mon livre qui a été traduit en 12 langues.
Oui.
Donc j'ai accompagné. Il a vendu, oui, un peu du coup dans tous ces pays. Et j'ai décidé d'accompagner le livre et donc de me refaire une vie où je portais ces paroles-là autour de ce modèle danois. On en parlera sûrement tout à l'heure.
Bien sûr.
Et puis devenir conférencière. Donc parler dans les entreprises notamment aussi du modèle du leadership danois qui rend aussi les employés beaucoup plus heureux. Et donc maintenant aujourd'hui j'ai écrit un deuxième livre aussi qui est sorti en 2017 qui s'appelle Le bonheur sans illusion et qui est sorti en poche avec un nouveau titre, Les 5 pièges du bonheur, beauté, argent, pouvoir, célébrité et sexe. Et je donne également des cours Dans les entreprises également, des formations autour des sujets comme la confiance, comment on construit la confiance autour de la connaissance de soi et celle des autres, et donc qui aboutit pour avoir une meilleure empathie dans les entreprises, donc de comprendre l'autre, mm-hmm. pouvoir se mettre à la place de l'autre, et puis aussi sur le sens du projet commun, donc le ce pourquoi on se lève le matin, ce sens, ce fameux sens à la vie, en fait, en réalité, qui est un grand élément fondamental pour être bien dans la vie.
Alors justement, tu en parles déjà dans Heureux comme un Danois. Est-ce qu'on peut essayer de retracer un peu les grandes différences que tu sens entre le modèle français et le modèle danois ? Sans pour autant dévoiler tout ce qu'il y a dans ton livre.
Oui, non, mais je pense que pour commencer, je vais poser les trois piliers de... Moi, je donne 10 raisons dans Heureux comme un Danois, mais en réalité, il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est vraiment la confiance. Donc, la confiance entre citoyens est le plus élevé au monde au Danemark. Il est à 78%, alors que, par exemple, en France, on parle plutôt d'un taux de confiance qui est autour de 20%. Donc, en fait, c'est le contraire en France, c'est qu'on est dans un pays de méfiance. On se méfie de l'autre. Et quand vous êtes dans un pays où on fait confiance à l'autre, c'est-à-dire 8 Danois sur 10 se disent faire confiance à celui qu'on ne connaît pas. Et donc ça crée évidemment des relations beaucoup plus apaisantes, simples et même bienveillantes. Et pour vous donner des exemples, vous voyez dans les rues de Copenhague, par exemple, des poussettes avec des bébés qui dorment dedans pendant que les parents déjeunent à l'intérieur. Il y a deux, même quand on a fauté dans la société danoise, on réengage la responsabilité. Et cette notion de confiance, donc 2 prisons sur 3 au Danemark sont des prisons ouvertes. Et vous avez au Danemark le taux de récidive, un des plus bas au monde, à 23%, alors qu'en France, il est à 59%. Donc cette notion de confiance, donc entre citoyens, mais aussi aux institutions et gouvernements, qui est très élevée, est un vrai pilier. Et là, notamment, si on prend la comparaison, donc en la France, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire qu'on parle de 80% de confiance au Danemark et 20% en France. Donc cette méfiance fait du mal et complique les relations. Le deuxième pilier, qui peut-être c'est lui qui, pour moi, qui est le plus important, les trois sont importants, mais c'est à l'origine de l'éducation nationale au Danemark, où le but principal, c'est de développer la personnalité de l'enfant. Donc, il n'y a pas d'hierarchie entre les matières. Donc, on va aussi bien valoriser un enfant qui a un talent manuel, mécanique, sportif, musical ou... tout simplement quelqu'un qui est bon avec l'autre, c'est-à-dire la gentillesse chez un enfant, on va encourager l'enfant, valoriser ce talent autant que le talent intellectuel. Donc on ne va pas entendre dire à une petite fille ou un petit garçon à 7-8 ans qu'ils sont nuls parce qu'ils ne sont pas bons en maths ou en langue. Et donc cette valorisation de tous les talents fait que la probabilité qu'un enfant va finir par vivre sa vie et pas juste une vie, est beaucoup plus grande. Et ça, c'est important parce que plus on vit une vie qui est en harmonie avec ce qu'on est à l'intérieur et on se sent valorisé dans la place qu'on a pris dans la société, quelle que soit cette place, plus on va être dans plus on va construire ce que moi j'appelle une base de bien-être. Je fais un peu attention à ce terme de bonheur parce que le bonheur, en réalité, c'est quelque chose qu'on vit plutôt par moment.
D'accord.
C'est pas un état
permanent.
Voilà, c'est un chemin. Donc, par moment, on vit des moments, effectivement. D'ailleurs, très souvent, on est confondu avec le plaisir. Mais,
bien sûr.
Mais,
ou la joie, même.
La joie, ouais. Autre chose. Mais moi, je parle toujours de la construction de la base de bien-être, celle sur laquelle on revient à chaque fois quand on a vécu un bon moment de bonheur ou un moment plutôt difficile.
Et donc, le troisième pilier.
Et le troisième pilier. C'est ce que j'appelle la responsabilité individuelle d'un projet collectif. Et alors, symboliquement, au Danemark, c'est la volonté des Danois de payer les impôts, alors que le Danemark, c'est un des pays les plus imposés au monde. On a 60% de taux d'imposition après 52 000 euros de revenus. Et on a 25% des TVA. Donc, c'est vraiment des impôts assez importants. Et alors que 7 Danois sur 10 se disent aimer, tout simplement, payer les impôts et participer à ce projet collectif. Tout simplement parce que les Danois se sentent qu'en faisant partie de ce projet collectif et non comme victime du projet. Ou d'ailleurs, pire, comme juge du projet. Donc les deux sont évidemment de rôle passif. Si on est juge ou victime, on regarde le système et on ne participe pas de manière active. Donc là, les Danois, ils se sentent concernés par ce projet de l'État, notamment Providence.
Donc en fait, on est un petit peu mal barré en France parce que finalement, on n'a aucun des trois.
Mais si, je moi, je crois que ça commence.
Oui, il y a un petit, il y a une évolution actuellement, mais
de plus en plus. Et je vois aussi que maintenant, notamment, je donne des cours dans une grande école française, et je vais commencer à donner des cours dans une autre. Et ça commence à ouvrir même ce système qui était avant un système assez fermé, à se dire, on a envie aussi d'avoir des cours qui enseignent la construction de la confiance. Comment on fait la connaissance de soi?
Autre chose que la finance, le management,
Et plus donner des compétences dans ce domaine-là, qui sont des compétences pour moi essentielles, évidemment, pour notamment le leadership, pour mener un gros bateau, pour amener les employés, les équipes avec nous. Il faut savoir valoriser les talents, il faut savoir faire preuve de l'empathie et avoir un projet collectif où les gens se sentent valorisés, je suis convaincue.
Mais ça commence aussi, on en reparlera peut-être un peu après, mais sur le modèle d'éducation, enfin ceci dit on peut parler maintenant, mais parce que il y a les écoles effectivement supérieures, mais le sujet doit être pris déjà à la source en fait quand les enfants sont tout petits.
À l'âge de 6 ans, on commence au Danemark ce que nous on appelle l'heure de la classe, mais on l'a nommé en France dans la presse française, et, les cours d'empathie. Et c'est vrai que le contenu, en réalité, c'est ça. C'est qu'on apprend aux enfants à identifier leurs émotions et celles des autres. Donc, on va parler de tout ce qui se passe, non seulement dans la classe, mais aussi dans la vie des élèves. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un où les parents divorcent, où il y a eu un décès, ou tout ce qu'il y a, harcèlement à l'école, les moqueries, tout ça, on va vraiment aider les enfants à être à l'aise avec l'émotion et donc à pouvoir l'identifier et pas avoir honte, entre guillemets, d'être humain, tout simplement, parce qu'on est tous pareils, hein, on est remplis d'émotions, que ce soit des positives, c'est-à-dire la joie, le bonheur, la confiance, ou des émotions plus difficiles. Et de ne pas avoir honte de les exprimer, et surtout de pouvoir essayer de se mettre à la place de l'autre pour créer une société plus en harmonie et avec plus de douceur et avec plus d'humanité. Et donc cet apprentissage à partir de l'âge de 6 ans, pour moi, est essentiel. Et c'est ce que j'essaye de transmettre en France, même à des adultes, parce que je pense qu'on peut même adulte l'apprendre. Bien sûr, tout le monde me dit, mais c'est plus facile pour les Danois, peut-être. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas essayer de se donner cette conscience aujourd'hui, même adulte.
Mais il y a un autre sujet aussi, c'est que les enfants, aujourd'hui, ils ont des téléphones dans la main très jeunes, très tôt. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue sur la manière dont on peut dire à ces enfants d'utiliser ces choses-là, parce que finalement, ils ont une porte ouverte sur le monde, ils ont accès à des contenus qui peuvent être positifs, comme ultra-violents, comme plein de choses. Mais quel est si on est parent, quelle est la bonne manière de faire, en fait, avec son enfant, avec un téléphone ?
Je pense qu'il faut, effectivement avoir des règles quant à l'utilisation du téléphone. Et d'ailleurs, pas que les enfants, à commencer par nous, enfin, à commencer par soi-même, pas l'avoir à table déjà, quand il y a deux personnes.
Ça, c'est catastrophique.
Oui, quand il y a plus quand on n'est pas seul, il faut le mettre de côté et être. Si on ne connecte plus avec l'humain, une étude la plus longue d'ailleurs sur le bonheur qui a été réalisée par Howard University sur 80 ans, et la conclusion de cette longue étude, elle est très simple, c'est que l'élément qui a le plus d'impact sur notre bonheur et notre bien-être, c'est la qualité de nos relations. Et évidemment, le fait de connecter avec quelqu'un quand on est à table et réellement l'écouter et pas être sur son téléphone en même temps, ça a une importance essentielle pour nos relations, pour notre bien-être. Quant aux enfants, il y a tout le problème des médias sociaux, et aujourd'hui c'est plus une question, c'est-à-dire que ça a été prouvé par de nombreuses études que le dommage que ça fait aux enfants et à notre bien-être et notre bonheur d'être sur les médias sociaux, hélas c'est sur l'estime de soi, sur l'influence négative parce qu'on se compare, etc. Donc ça c'est sûr que c'est pas recommandable qu'on passe toute la journée là-dessus, c'est sûr.
Maintenant j'aimerais qu'on parle aussi de ton plus récent ouvrage, donc Le Bonheur sans illusion. Tu abordes autant l'argent, le pouvoir, la célébrité, la beauté et le sexe, et tu essayes de délier un peu ces 5 éléments du bonheur, ou en tout cas du bien-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, mais la motivation de ce livre est en fait venue parce que quand j'ai écrit « Recommand danois » et j'ai commencé à prendre la parole sur justement le bonheur, le bien-être, etc., j'avais fait une longue interview avec un monsieur un jour d'une heure pour expliquer le modèle danois, la solidarité, la confiance, l'empathie, etc. Et à la fin de l'interview, il me dit « Mais ok, tout ça, c'est très bien, mais enfin, les Danois, ils sont surtout heureux parce qu'ils sont tous beaux. » Et effectivement, ça m'a laissé... sans voix, parce que je me suis dit, mais comment il pourrait arriver à une telle conclusion? C'est aberrant. Donc, j'ai commencé à regarder. Et j'avais d'ailleurs aussi, durant mon parcours professionnel, observé, comme j'ai travaillé un peu dans le luxe et dans les hôtels de luxe, etc., observé tout ce fantasme autour de ces phénomènes de la beauté, de l'argent, du pouvoir, de la célébrité, et avec un peu en filigrane le sexe comme une thématique qui s'inscrit quand même un peu dans tout sûr. Cet univers.
La performance.
La performance, etc. Et donc, j'ai observé et je me suis dit, quand même, surtout avec la pression aujourd'hui des médias sociaux, parce que moi, à l'époque, il y avait la vie rêvée, mais c'était peut-être des stars à Hollywood, donc on voyait très bien que dans un film, ça pouvait nous faire rêver, mais on savait que c'était une mise en scène, c'était pas chez nous. Mais ce qui est devenu très compliqué aujourd'hui, c'est que, ou quand on voyait quelqu'un dans un magazine, etc. Mais aujourd'hui, quand on regarde sur les médias sociaux, c'est nos voisins, c'est nos amis, c'est nos collègues. Donc on n'a plus ce filtre. On croit vraiment à la vie rêvée des autres,
on dirait que c'est
comme
réel.
Une réalité. Comme une vraie réalité à côté de chez nous, qu'il fait toujours beau, ou que les autres, ils ont moins de rides, ou ils sont plus d'argent, ou ils vont plus en week-end, ou ils vont à la campagne et nous non, etc. Ils sont toujours dans des dîners avec des éclats de rire et qu'ils mettent hashtag mon mari adoré, etc. Et donc, du coup, cette proximité, et en plus, en permanence, fait que les gens, ils deviennent relativement, ou même, voire très complexés. Et donc, j'ai voulu faire un livre décomplexant. Pour dire, arrêtez d'imaginer ou de regarder la vie rêvée des autres, vivez tout simplement la vôtre, parce que justement, ce dont vous rêvez, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, j'ai pris sujet par sujet pour essayer de prouver ou démontrer par des données académiques, statistiques, que ce n'est pas ce qu'on croit. Et donc, à commencer, et notamment, j'avais été choquée par des chiffres que j'avais trouvé que 2% de femmes se disent belles dans le monde. C'est terrible. J'avais trouvé d'autres chiffres qui montraient que 50% des jeunes européens ont comme premier rêve d'être célèbres. Et quand on pose la question, pour quel talent ? Et dire oui, j'ai envie d'être connu, bah, ils disent peu importe. Donc, télé-réalité ou autre, c'est pas important, ce pourquoi. Dans l'argent, aujourd'hui, je viens de réaliser avec le cabinet Occurrence une grande étude sur la jeunesse française de 15 à 18 ans qui indique que 72% des Français, des jeunes Français, disent que pour être heureux, il faut être riche. Et donc, avec ces données. Sur la célébrité ou le pouvoir, ou aujourd'hui on constate que 66% des jeunes Français apprennent le sexe sur les sites pornographiques. Ils essayent de reproduire les scènes. Donc même une source de plaisir qui est une source qui est donnée à tout le monde, bah, cette source, elle a été prise en otage par aussi une quête de performance. Et donc tout ce traitement du livre, c'est pour à nouveau décomplexer les gens et voir ça sous une autre lumière.
Et sur l'argent, justement, enfin sur le fait que les gens veulent être riches à hauteur de 72%, c'est surtout qu'ils ne dissocient pas la richesse de l'argent qu'il suffit pour vivre, en fait. Le terme de riche, aujourd'hui, je ne sais plus ce que ça veut dire, moi, personnellement.
Non, je pense que les gens ne savent pas non plus ce que ça veut dire, en réalité. Mais alors, l'argent, est-ce que l'argent rend heureux, etc. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui... concerne une grande majorité de gens sur Terre, l'argent a une réelle influence sur leur niveau de bien-être parce que tout simplement
ils en manquent beaucoup.
Ils en manquent. Bien sûr. Donc voilà. Donc quand on est dans une catégorie où on n'a pas de toit, où on n'a pas de quoi se nourrir, etc., c'est une évidence que l'argent rend la vie plus facile, ou même meilleure, tolérable, etc. Mais c'est le fantasme de beaucoup d'argent. Donc cette exposition, notamment à travers de la télévision, des médias, des médias sociaux, qui est erronée parce qu'on dit qu'à partir de 70 000 euros de revenus annuels, l'argent n'a plus d'effet sur le bonheur. Il peut même, dans certains cas, avoir un effet négatif. Donc, à la fois, c'est beaucoup d'argent pour plein, la majorité des gens sur Terre. Mmh. Et à la fois, il y a ce fantasme qui, de gagner au loto, par exemple, qui perdure, où les gens ils disent « Mais si, moi, je gagnais 10 millions au loto, je serais très heureux. » Mais ça, tout simplement, quand on regarde réellement ce qui se passe, ça, c'est pas vrai. Mmh. Et donc, c'est ça que je voulais exposer pour que... Bien sûr, on peut garder ses rêves, et c'est pas une question de pas dire que d'être ambitieux ou pas, mais juste l'être avec lucidité et savoir pourquoi on fait les choses dans la vie. Parce que c'est ça, c'est le ce pourquoi. On peut vouloir faire un beau projet et même vouloir faire de l'argent, mais à quoi vous contribuez? Comment vous contribuez à faire un meilleur monde? Quel est le projet collectif? Vous voulez du pouvoir, pourquoi faire? Vous voulez être reconnu par le monde entier, pour quel projet? Et donc, si on le sait, si on connaît le pourquoi et on se met dans une mobilisation pour un projet collectif qui est beau, qui fait un meilleur monde, tout ça, ça peut marcher, mais sans cette raison, sans ce sens, et on se perd très facilement et on devient très rapidement prisionnaire de ce système, parce que ça devient des addictions et même des souffrances, une forme d'insatisfaction perpétuelle, que ça soit le pouvoir, la célébrité. Quand est-ce que c'est assez? C'est ça la question. La beauté, quand est-ce que c'est assez?
Bien sûr.
Quand est-ce qu'on est assez belle? Et aux yeux de qui? C'est qui le juge? Et donc, en réalité, le juge, c'est nous-mêmes. Donc, c'est ça le grand problème. C'est
Je suis très perturbée, excuse-moi, je te coupe, mais je suis très perturbée par... par la consommation, et je pense que c'est quelque chose quand même d'assez féminin, la consommation qu'ont les jeunes femmes de Instagram. C'est-à-dire, je suis un peu... je sais pas, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, parce que je pense qu'on peut toutes tomber là-dedans, mais c'est cette quête de l'image parfaite, du like, du... Et je trouve que ça touche particulièrement les femmes, en fait, parce qu'elles sont en permanence en train de se soucier de l'image qu'elles ont, de l'image qu'elles donnent. Et puis on voit quand même beaucoup de... Enfin, moi j'avoue que je passe pas mal de temps sur Instagram parce que je trouve que c'est autant une source de belles choses que de choses un peu bizarres. Mais moi j'ai un problème avec ça. C'est toutes ces femmes qui consistent à passer leur vie à se dire quelle est la prochaine photo que je vais poster. Et finalement elles sont likées par des inconnus. Donc il y a un truc un peu psy là-dedans qui me... Je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter, ça, en fait.
Bah, c'est un vrai problème, et c'est un peu contre ça que je lutte quand j'utilise l'expression « la vie rêvée des autres ». Parce que moi, en plus, j'en ai plein, et je pense que je ne suis pas la seule, des exemples entre la réalité de la situation et la photo postée. Il y a souvent un énorme écart.
Oui.
Et donc, ce dont on rêve, et peut-être réel à la seconde de la photo prise, mais pas dans sa globalité, en tout cas. Et donc, on commence à... Et c'est pas ça que ça fait du mal, parce que on ne peut pas être à l'auteur de ces images, parce que ce n'est pas des images ou des situations réelles. Mais je pense qu'il y a deux tendances dans le monde aujourd'hui, auprès de la jeunesse, ou même dans notre génération à nous, c'est qu'il y a la tendance... de la jeunesse qui veulent un sens, qui veulent protéger le monde, qui veulent sauver le monde, la planète, la nature, et qui demandent à chaque société c'est quoi le projet collectif, c'est quoi votre responsabilité sociale, environnementale, je veux avoir des horaires flexibles, je veux pouvoir avoir une vie de famille, je veux la permission d'être humain, tout simplement, et traiter bien le planète et les gens. Et puis après, il y a la tendance, et ça heureusement d'ailleurs pour cette jeunesse, et après il y a la tendance... modèle Trump, donc beauté, argent, pouvoir, célébrité,
c'est... Et j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie entre les deux terrible.
Totalement. Et c'est deux tendances bien claires. Là, dans ce sondage avec Occurrence que j'ai réalisé, on me demande à un moment donné, pour vous, qui incarne le pouvoir? Donc des jeunes français réalisés cet été, entre 15 et 18 ans. Il n'y a que, et c'est 50% filles et 50% garçons. On a 92% d'hommes cités. Et dans les 92% d'hommes, 19% c'est Trump.
C'est incroyable.
Donc pour les jeunes, Trump incarne le pouvoir. Alors, on peut dire oui, mais c'est pas forcément positif. Mais peu importe, parce qu'à un moment donné, pour un jeune, si on dit mais c'est lui qui a pris le pouvoir dans le monde, c'est ce modèle-là.
Ouais.
6% citent Macron. Seulement 6%. Mmh. Donc, c'est surtout des non-français qui citent, et surtout, il n'y a pas des femmes. Les femmes que les jeunes citent, c'est Rihanna, c'est Kardashian, et c'est la reine de l'Angleterre. Il y a deux Françaises dans le sondage, il y a Marine Le Pen et une chanteuse qui s'appelle Amel Bent.
Wow.
Et donc, pour moi, c'est effrayant parce que du coup, ça veut dire que déjà, la femme qui incarne le pouvoir, enfin les deux, c'est la, Rihanna et Kardashian. Et puis après, il y a Donald Trump qui, de manière assez écrasante, l'emporte aussi. Donc cette tendance et ce modèle de réussite, parce que la question que j'ai envie qu'on pose aujourd'hui dans les écoles, c'est quoi réussir sa vie ? C'est quoi le succès ?
Mais il y a beaucoup de gens paumés hein, qui ne savent toujours pas à 35 ans. Non, non, mais je veux dire, j'en vois quotidiennement hein, des gens qui se disent, en tout cas qui se posent la question. Donc c'est déjà bien de se poser la question parce qu'au moins ça montre qu'on est sur la bonne voie. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus commun.
Donc, donc ce livre, j'ai voulu le faire pour les jeunes en réalité, pour tout le monde, mais surtout notamment les jeunes. Et puis j'ai travaillé sur un projet que j'ai envoyé d'ailleurs à Brigitte Macron pour essayer de réfléchir à comment on pourrait créer quelque chose, un projet qui en forme ou en les jeunes, et où on parle tôt dans la vie.
C'est fondamental.
C'est
fondamental.
C'est quoi la réussite ? Et qu'est-ce qu'apporte l'argent ? Qu'est-ce qu'apporte la beauté ? Qu'est-ce qu'apporte la célébrité ? Si 50% de la population aujourd'hui, la jeunesse rêve de ça, mais le minimum, c'est qu'on les informe des conséquences que ça peut avoir.
Bien sûr.
Et puis après, à chacun de choisir ce qu'on a envie de vivre. Mmh. Mais au moins qu'on prend soin de dire, attention, toutes les rêves sont bonnes, mais sont bons, mais attention.
Quel est le sens ?
Attention.
Mmh. Ouais. Alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais est-ce qu'on peut parler de ce que tu observes aujourd'hui, puisque tu interviens dans des entreprises de, à mon avis, de tailles différentes, mais est-ce que tu pourrais me donner ton point de vue sur la souffrance aujourd'hui que tu peux observer au sein des entreprises ? Ou en tout cas, peut-être pas la souffrance, mais pourquoi on fait appel à toi ?
Oui. Alors, ce que surtout les entreprises constatent, c'est que l'engagement dans les entreprises, il y a notamment un sondage qui est assez connu qui dit que 86% des gens à travers du monde se disent désengagés dans ce qu'ils font. Et forcément, des collaborateurs désengagés, ils peuvent changer de job à n'importe quel moment. Donc là, on parle du taux de rotation. Donc de garder le talent, c'est un souci majeur pour les entreprises aujourd'hui, mais aussi avoir l'engagement, l'innovation. Et puis, dans la transformation digitale, dans toute la transformation de la société, et notamment avec la nouvelle génération qui arrive, tout simplement les jeunes, et je parle des meilleurs, c'est-à-dire le meilleur talent, exigent d'aller dans des entreprises, que ce soit des grands groupes ou des plus petites structures, où il y a un minimum de confiance, c'est-à-dire on les traite comme des adultes. Mmh. Ils ne veulent plus être traités comme des numéros ou des enfants. Ils veulent qu'on les responsabilise, qu'il y ait une certaine forme de liberté. Et là, on parle notamment symboliquement de télétravail, de pouvoir choisir ses horaires. On a des petits enfants, c'est des horaires un peu aménagés. On peut avoir des parents qui sont âgés, qui sont dans les maisons de retraités, où on a envie d'aller les rendre visite. Mmh. De respecter cet équilibre entre l'humain et ce qu'il fait. Et on peut tout à fait avoir une profession de passion, etc., mais aussi avoir une vie privée de passion où on a envie de s'occuper de ce qu'on aime et avoir des phases de vie où on a besoin de plus ou moins de temps ou des horaires flexibles. Et je pense que on voit aussi que cette compréhension de la valorisation de tous les talents, donc de pouvoir un minimum être soi-même, parce que à force de vouloir cacher qui on est, les collaborateurs dépensent énormément d'énergie et de leur productivité potentielle à cacher qui ils sont réellement.
C'est
vrai. En fait, c'est dans cette partie de nous, où on est nous-mêmes, qui réside toute notre innovation, toute notre créativité. Et si on osait proposer, dire ce qu'on pensait, l'innovation, la créativité, c'est ce qu'ils font, notamment dans des entreprises comme Google. C'est pour ça qu'ils aiment les startups, parce qu'on peut proposer des choses, on peut tester, on se sent valorisé quand on a une idée qu'on va tester. Et aussi travailler notre relation à l'échec, parce que quand on est dans cette mindset là, dans cette mentalité, c'est aussi l'échec, évidemment, de pouvoir rebondir quand ça n'a pas marché. On a fait des études notamment dans des entreprises qui ont de la confiance. On constate qu'il y a 32 fois plus de prises d'initiative, qui amènent à 11 fois plus d'innovation, qui amènent à 6 fois plus de productivité. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas les 6 fois plus de productivité.
C'est l'initiative du départ.
Mais c'est que c'est 2 fois sur 3, c'est une erreur. 32 à 11, ça veut dire que 2 fois sur 3, c'est un échec ou une erreur. Et donc, comment on réagit face aux deux premières propositions qui ne marchent pas pour avoir le troisième qui marche? Parce que sinon, on ne vous l'aura pas. Si on punit les gens qui proposent des choses qui ne marchent pas, après, ils vont arrêter. Et donc, c'est ce blocage un peu qu'il y a, parce que les décisions aujourd'hui sont prises par une génération qui ne se sent pas tellement concernée par ces principes-là, parce qu'ils ont été élevés dans un autre système, tout simplement. Et donc, ils font des changements qui sont compris intellectuellement, mais qui ne ressentent pas forcément sur leur corps. Et heureusement, ces dirigeants souvent ont des enfants, tout ce qui crédibilise les propos, parce que les enfants à la maison leur disent ça. Et donc, c'est mes meilleurs alliés. C'est les enfants des dirigeants qui disent mais maman ou papa, tu ne vois pas qu'il faut protéger l'environnement, il faut donner la liberté aux collaborateurs, etc. Donc, moi, je pense qu'on va dans le bon sens. Il y a tout à fait une prise de conscience. Il y a plein de dirigeants qui ont compris ça maintenant et qui même se battent pour ça, qui mettent des choses en place, des vraies initiatives. Il y a des groupes, notamment on peut citer Decathlon, parce que c'est un cas très connu. Ils sont réussis à créer un écosystème avec des dirigeants français, avec des collaborateurs français. Donc moi, je donne l'inspiration d'un modèle entre guillemets danois de leadership, mais sous prétexte, parce que en réalité, je vois que ça s'applique très bien dans les entreprises françaises. Donc c'est pas des valeurs danoises du tout, c'est des valeurs humaines qui peuvent s'appliquer dans une société française ou ailleurs. Mais en tout cas, c'est une question surtout aujourd'hui aussi de stratégie, de dire que pour attirer le talent, pour les garder, pour que les gens se sentent bien, pour qu'il n'y ait pas de burn-out, parce qu'on a quand même plus de 3 millions de Français aujourd'hui qui se trouvent dans une zone de risque de faire un burn-out. 3 millions. Donc ça, c'est énorme, et puis c'est un coût aussi associé à ça, évidemment, qui est considérable pour une entreprise.
Bien sûr. Est-ce que tu pourrais me donner ton point de vue aujourd'hui, parce que ça fait donc 18 ans que tu es en France. Qu'est-ce que tu penses du contexte actuel globalement en France aujourd'hui? Même si on l'a abordé d'une manière un peu différente.
Mais j'ai envie de dire à nouveau que je vois deux tendances. Je vois une tendance où les gens, ils se renferment peut-être un peu sur eux-mêmes, cette mentalité d'être victime d'un système et pas faire partie d'un système, je l'observe, un individualisme, oui on change mais pas moi, donc ça je l'observe, mais à côté j'observe aussi plein de gens qui prennent des initiatives à titre individuels, qui disent mais ne serait-ce que si je change la vie d'une personne ou deux personnes ou trois personnes, j'y vais. Et comme toi, ton projet de... Non mais c'est plein de petits projets comme ça, à donner la parole à des gens, à essayer, parce que souvent ce qui se passe, c'est que des gens qui portent des projets pour la solidarité, pour la confiance, pour l'empathie, c'est pas forcément des gens qui veulent être le plus exposés. Et donc, ce n'est pas forcément ceux qu'on met tout de suite devant sur la scène. Et donc, tous ces petits projets à créer des communautés, à donner la parole dans la presse, sur un blog, sur des podcasts, tout ça, pour moi, participe à créer une meilleure société. Mm-hmm. Et je trouve qu'il y a plein d'initiatives, des très belles initiatives aujourd'hui. Donc, Je suis optimiste, et pas optimiste avec des lunettes roses, mais avec lucidité, je vois des choses qui bougent, et je vois une volonté de changer les choses, à la fois dans l'éducation aussi, et dans d'autres domaines, dans les entreprises aussi. Donc, on a encore un chemin à faire, mais il y a des signes positifs, je trouve.
Maline, je pourrais parler des heures avec toi tant tu es passionnante, mais on va peut-être conclure maintenant, mais j'ai une question, c'est est-ce que tu as un coup de cœur récent, ou est-ce que tu as une recommandation à faire?
Alors je viens de terminer des cours de Laurie Santos. Laurie Santos, c'est un professeur à Yale University qui a proposé pour la première fois de l'histoire de l'université des cours de bonheur aux élèves de Yale. Et elle a eu la bonne idée et la générosité de mettre ses cours en ligne sur Coursera.
Gratuitement.
Et gratuitement. Donc, vous pouvez vous inscrire sur des cours de bonheur de Yale sur Internet et les suivre pendant 10 semaines. Et je trouve ça, c'est en anglais, mais c'est super. Et je trouve que je pourrais recommander à tout le monde de le faire parce que c'est une très, très bonne base pour comprendre en réalité ce qui nous rend heureux dans la vie, ce qui ne marche pas et ce qu'on pense par moment, que ce soit les solutions, on en parlait tout à l'heure, des choses comme la beauté, l'argent, le pouvoir et la célébrité et le sexe.
Maline, voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était super.
Merci.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.